da 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 da. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi o întâlnire cu regizorul belgian Fabrice Duvels. Cel mai recent film al său, Mal d'Horreur, a fost prezentat la TIFF la începutul săptămânii și va mai avea o proiecție chiar astăzi de la ora 16 la Casa de Cultură a Studenților. Pe scurt, două fete dispar ca prin minune, iar tânărul și impulsivul polițist Paul Chartier se alătură trupei de elită Mal d'Horreur. Această unitate secretă are sarcina de a monitoriza un periculos abuzator sexual, dar rezultatele întârzie să apară, iar Chartier este tot mai frustrat din cauza limitărilor legii. Nu trece mult și tânărul va porni la vânătoare de unul singur.
Là pour faire le travail de la police parce que on constate qu'il se passe rien.
T'as vraiment une gueule de petit con. Une vraie gueule de flic.
Si j'ai choisi cet uniforme, c'est pour faire bouger les choses. Je veux qu'on ramène la petite à leurs parents. Marcel de Dieu, c'est lui.
Il a déjà été condamné pour viol sur mineur. J'ai monté personnellement une opération pour en avoir le cœur net. L'opération Mal d'Horreur.
De Dieu aménage ses caves depuis 2 ans.
Mal d'Horreur est une opération de surveillance exclusivement. Vous allez lui coller au basque et le choper en flagrant délit. Mais pas avant.
Gendarmerie, ouvrez !
Voilà, vous avez une cave ici, vous pouvez me la montrer ? T'as rien entendu ?
Vous avez ignoré le cadre de la perquisition.
Je les ai entendus, je suis pas fou.
Pourquoi est-ce que vous refusez de partager les éléments de l'enquête avec les parents des victimes? Ce ne sont pas les citoyens qui mènent l'enquête.
Non, mon coffre, c'est pas mon boulot.
Tu dors pas, tu manges pas. Paul, tu peux rien faire.
Je vous parle d'un trafic de pédophiles dont on connaît même pas l'ampleur.
Ça pue, là. C'est terminé, Chartier, là.
Non, mais non.
La petite, elle a besoin de toi.
Je suis fou des nuits avec la chouette dans la tête.
Flic, tu peux rien en faire.
Orașul Vallon Charleroi servește drept decor pentru filmul lui Fabrice Duvels, un film de ficțiune inspirat din afacerea Dutru, care a zguduit Belgia la mijlocul anilor 90. Regizorul belgian explorează trauma acestui fost oraș industrial, unde agresorul de copii, pedofilul Marc Dutru, a sechestrat 6 dintre victimele sale tinere. Casa sa era situată pe Avenue Philippeville la numărul 128, la o oră de mers cu mașina de Bruxelles. Doar o oră și ai deja impresia că ai părăsit Pământul pentru un alt sistem solar, părăsind capitala Europei pentru un oraș ca oricare altul. Prosperitatea sa, bazată cândva pe cărbune și metalurgie, a dispărut în anii 1960, odată cu dezindustrializarea, înghețând metropola și lăsând-o în fața unui viitor de inventat. Marc Dutru a fost arestat de poliția belgiană pe 13 august 1996, împreună cu partenera sa, Michel Martin, și 2 dintre complicii săi. Condamnat în 2004 pentru crimă, viol asupra minorilor și răpire, el ispășește o pedeapsă de viață în închisoarea din Nivel. Fantoma lui încă bântuie orașul, chiar dacă casa lui nu mai există. Rasă de pe fața pământului în 2022, a fost înlocuită în anul următor cu o grădină memorială numită Între Pământ și Cer. Un nume ales de părinții lui Julie Lejeune și Melissa Rousseau, două fetițe de 8 ani răpite în iunie 1995 lângă Liege, închise în subsolul casei și ale căror cadavre au fost găsite într-o altă proprietate a lui Marc Dutru. Întâlnirea așadar cu regizorul Fabrice Duvels.
Moi j'avais un peu plus de 20 ans quand c'est arrivé, en 95, donc j'avais 22 ans. Et c'est sûr que ça m'a profondément marqué, choqué, interpellé. Il y a un avant et un après, c'est un peu le 11 septembre de la Belgique, hein. C'est vraiment un moment très, très particulier. Pour nous, pour les plus jeunes que moi, mais surtout pour nos parents à l'époque. Donc j'ai vraiment vu un changement, j'ai vu une espèce de psychose populaire qui s'est emparée du pays, les médias qui devenaient fous, une traque à l'homme, enfin quelque chose qui dépassait un peu mon entendement. Et j'ai toujours pensé, parce que déjà à l'époque je nourrissais des ambitions de cinéma, j'ai toujours pensé de manière un peu naïve, et forcément à l'époque, que ce serait un sujet pour un film à venir absolument incroyable. Sauf que quand je disais ça, bien sûr, tout le monde se moquait un peu de moi et me prenait pour un fou. Puis surtout, j'étais pas du tout armé, j'avais pas du tout l'expérience. Et puis c'est resté très longtemps tabou en Belgique, parce qu'effectivement, après, il y a eu le dossier judiciaire, il y a eu la décision de justice. Et donc, il y a deux thèses qui s'affrontent, la thèse du réseau et la thèse du prédateur isolé. La thèse du prédateur isolé est restée. Et donc, tout ce qui est autour du réseau a vraiment été complètement décapité, enterré, alors que la population a toujours subodoré quelque chose de terrible. On nous a un peu enfumé dans cette décision de justice. Enfin, c'est ce que je trouve, après avoir... Et non, ce n'est pas des théories conspirationnistes. Hein, c'est simplement après une étude très sérieuse et très exigeante du dossier. Je ne vais pas trop verser dans le délire paranoïaque et complotiste, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Moi, j'ai voulu faire un film de cinéma d'abord. Par contre, en tout cas, je suis en lien profond avec le regard populaire autour de cette histoire. C'est-à-dire qu'on nous a enfumé. On nous a enfumés, réseau de faits il y a, puisqu'il y a au moins 4 personnes qui sont impliquées dans ce réseau. Il y a probablement d'autres personnes qui sont impliquées aussi, mais on ne le saura jamais avec précision. Aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans après les faits, Dutroux est en prison, il y a aussi le débat, est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il ne va pas sortir. Cette histoire, c'est une baleine, quoi. C'est un loup de mer. C'est quelque chose qui, avec des strates et beaucoup beaucoup de complexité. Il y a énormément de zones grises. Alors bien sûr, les gens qui me confrontent et qui m'affrontent sur le film me parlent de complot, me parlent de paranoïa, etc. Mais encore une fois, moi, je reste à mon rôle de cinéaste. Hein. Je suis ni juge ni avocat. Mais voilà, je pose des questions par le biais de la fiction, et surtout je tends vers une espèce de réparation populaire, c'est-à-dire par le rôle de la fiction, c'est faire comprendre d'abord aux plus jeunes quel était le climat d'une Belgique des années 90, qui est très très le sud de la Belgique, enfin, même si le nord était très impacté aussi, très très particulière, et de voir à quel point ça a impacté profondément les couches populaires. C'est vraiment le prolétariat qui a pris le plus cher, en fait, dans cette histoire. Et on le voit beaucoup à Charleroi. Charleroi, qui est une ancienne ville ouvrière, qui est en souffrance, qui a une situation économique, politique et sociale quand même très très difficile. C'est encore une population qui souffre encore beaucoup beaucoup des conséquences de cette histoire. Je suis pas juriste, encore une fois. Moi, j'ai juste voulu, de manière très très détaillée, très documentée, encore une fois, être le plus proche du contexte social, économique de l'affaire, et après d'essayer, en tout cas, de la transcender, et de proposer une sorte de catharsis, même si elle est inconfortable, hein, mais de catharsis populaire.
Je dirais pas que c'est une forme de justice, mais c'est quand même une forme de justice populaire en quelque sorte.
Mais alors, la question de la justice, elle est centrale au cœur du film. C'est-à-dire que ma question, en fait, la question qu'on s'est posée avec Domenico Laporta, mon scénariste, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, que peut faire une société, que peut faire un jeune homme honnête dans une société où la justice faillit, quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire véritablement? Comment est-ce qu'il peut être un homme digne? Comment est-ce qu'il peut vivre? Enfin, c'est toute la question du film. Donc, c'est pas un vigilante stricto sensu. C'est un film qui pose là vraiment la question, à mon avis, de la justice et la question du mal. Alors, ça peut paraître un peu présomptueux de dire ça, mais c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans un cadre d'un film de policier qui est, à mon avis, assez large. Mais il est irrigué quand même par des questions qui nous semblent quand même très très importantes. Et dont les racines, en tout cas, sont encore fiévreuses.
L'histoire est portée par un jeune policier qui est sûr d'avoir raison et à qui on met un peu le poing dans la gueule en disant « il faut pas que tu te prononces, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça ». Et c'est quand même une histoire qui dure 2h30, plus de 2h30, qui nous tient en haleine. Tout le monde dans la salle était scotché vraiment à l'écran. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'écriture du film et aussi du casting du film et comment vous avez fait le choix des acteurs?
Alors, le choix du le rôle central, donc le Paul Chartier, le jeune policier, le jeune gendarme, parce que c'était l'époque où encore il y avait, donc c'est une guerre des polices, hein, on est vraiment dans au début des années, dans les années 80 et début des années 90, en Belgique, il y a 3 corps de police. Donc c'est ce qui a provoqué, en fait, toute cette, toute cette problématique, en fait, c'est que ces corps de police ne communiquaient pas entre eux, donc ce qui a eu des conséquences absolument irréversibles. Mais donc Paul Chartier, qui est un jeune gendarme, qui lui-même vient d'un milieu fracassé, il a un idéal de justice. Il veut s'en sortir. Il pense qu'en étant du bon côté de la loi, il va pouvoir s'en sortir. Il va pouvoir être un homme juste. Et il s'aperçoit que c'est très compliqué. Et donc, il me fallait quelqu'un qui ait une apparence innocente. Quelqu'un qui ait une grande force, mais qui ait une apparence très, très innocente. Et Anthony Bajon a été pour moi un choix assez évident, d'emblée, tout de suite. Parce que je trouve qu'Anthony a... il a des grandes qualités de comédien. Pour moi, c'est probablement le meilleur acteur de sa génération.
Pardonnez-moi, je l'ai vu sur scène il y a deux jours. Oui. Il est complètement différent par rapport à son état naturel dans votre film.
Ah oui, parce que c'est un grand acteur. C'est un grand acteur, donc il est capable de... Mais je crois qu'il s'était vraiment très très préparé pour ce rôle. Il savait que ça allait être quelque chose d'assez intense. Il savait que voilà, ça allait engager beaucoup beaucoup de sa personne. Et donc c'est vraiment autour d'Anthony Bajon que j'ai composé le casting. Donc Alexis Manenti qui est son binôme, gendarme. J'ai vraiment composé Alba Gaia Belloudi, avec qui j'avais travaillé précédemment sur mon précédent film Inexorable. En fait, j'ai un peu cherché à composer une espèce de famille de gens que je connais un peu. Bon, il y en a que je connaissais pas, mais et voilà, de créer une espèce de troupe, quoi, de gens qui étaient très concernés par l'affaire et qui surtout donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et après sur l'écriture, alors l'écriture ça a été un vrai morceau, ouais. Parce que d'abord, on a travaillé en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, il faut digérer tout ce qu'on lit. Et croyez-moi, ce qu'on a lu, c'est quand même assez hallucinant parfois. On est revenu pratiquement sur tout.
On avait Vous avez accès au dossier
Le dossier est sur Internet. Hein. Le dossier, on le trouve facilement sur Internet, sur Wikileaks. On le trouve, tout le dossier, en fait. Mm-hmm. Et après, il y a le dossier bis, qu'on trouve aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on trouve. Les manchettes de journaux de l'époque. Mais surtout, on avait un point de vue. On savait qu'on n'allait pas tout embrasser parce que c'était pas possible. Sinon, ça aurait été une série de
six. C'est aussi une fiction.
Oui, c'est ça. Il fallait faire une fiction et puis on savait plus ou moins comment on allait terminer le film avec la question centrale, la question de la justice. Que peut faire, encore une fois, qu'est-ce qui peut faire si la justice ne va pas au bout de sa logique, en fait? Comment faire en sorte de respirer, de rendre l'air respirable, en fait? Donc ça c'était notre ligne de conduite. Et puis après, on a essayé d'articuler les choses le mieux possible, compte tenu de nombreux personnages, de nombreux décors, de nombreux clans. Et puis, il y avait l'aspect... la dramaturgie est assez ample, parce que ça se passe sur plusieurs années, presque 10 ans. Donc, il y avait un travail d'évolution des personnages dans un contexte, encore une fois, qui est tragique, quoi, qui est tragique. Ça demandait beaucoup, beaucoup de travail. Et de précision.
Alors, pour nous, de loin, à plus de 3000 km, ça reste quand même un thriller, un très très bon thriller. Mais je pense qu'en Belgique, les choses ont été... les gens ont été un peu bouleversés. Comment le film a été reçu? Et surtout, je voulais savoir, est-ce qu'on vous a appelé? Est-ce qu'on vous a menacé? Ou est-ce qu'on vous a dit, tu vas un peu loin ou...
Je crois que plusieurs personnes ont sans doute pensé qu'on allait un peu loin dans... Mais c'est parce que souvent les gens confondent un peu la réalité et le cinéma. Moi, encore une fois, j'ai voulu faire qu'un film de cinéma. Alors je crois que le sujet irrite, parce qu'en Belgique particulièrement, enfin je pense qu'en France c'est un peu pareil aussi, hein. On n'aime pas trop regarder dans l'eau sale, quoi, dans le passé. On préfère enterrer et faire comme si ça n'avait jamais existé. Mais c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, la nôtre est beaucoup plus verte, on va dire, et assez intense, hein, parce qu'il n'y a pas que l'affaire du trou... Il y a quand même des grosses plaies qu'on a complètement enterrées. Alors le Belge joue au sympathique, au bonhomme, au buveur de bière sympathique, au modeste. Alors que bon, je ne crois pas que ce soit complètement le cas. Donc voilà, je pense qu'il y a une irritation chez certains en Belgique, bon, qui me concerne peut-être aussi. Hein. Je crois que je suis assez clivant, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Et puis surtout, il y en a qui refusent qu'on mette en cause la décision judiciaire, qui ne voient en fait que la réalité et qui me taxent de salopard ou de complotiste. Il y a eu quand même des papiers vraiment très très violents à notre encontre à la sortie du film, vraiment, et même de gens qui étaient partenaires du film. Donc c'est vraiment, je l'ai un peu mal vécu, pour être tout à fait honnête. En France, ça a été différent parce que c'est plus loin, et puis je pense que il y a une autre compréhension de l'affaire. Mais en Belgique, ça reste très touchy. Et je l'ai vu. Et puis surtout, les gens sont tellement dégoûtés par cette affaire qu'ils n'ont pas envie de remettre le nez dedans. Mais ceux qui l'ont vu, ben, ont été. Il y en a quand même beaucoup qui l'ont vu, hein, mais ceux qui l'ont vu. Puis je pense que le film va vivre. Maintenant, on va vivre en VOD, va vivre en vidéo, va vivre à la télévision. Le film va vivre. Je pense que le film n'est pas du tout ce que les gens, ou ce que certaines personnes pensaient qu'il allait être. Je crois que c'est un film très humanisé, quoi. Qui est très, très incarné par le personnage de Paul Chartier, par Anthony Bajon, qui témoigne en fait de la qui représente pratiquement tout un peuple, quoi. Cette volonté de justice et cette impuissance, cette frustration, jusqu'où cette frustration va en fait.
Et Paul Chartier, il est capable d'aller jusqu'au bout pour la vérité, oui. Pour sa vérité et pour la vérité des autres, pour défendre les plus démunis, et ça, je trouve ça extraordinaire. Vu de loin, de plus de 3000 kilomètres, c'est un très beau film, et je dirais même un film nécessaire. Quelle place tient ce film dans votre parcours professionnel ?
Ouh là là, je ne suis pas vraiment apte probablement à répondre à cette question, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un changement assez important pour moi de...
Pas de style, mais de...
En fait, ce que j'aimerais, encore une fois... Je dis ça de manière très, très modeste, hein. C'est-à-dire que j'ai fait quelques films maintenant, mais j'ai beaucoup exploité mes névroses, mes propres névroses, mes propres obsessions. Ici, ce que j'aimerais, c'est travailler sur des sujets qui me dépassent en tant qu'homme, en fait, qui me dépassent en tant que persona, enfin, qui me dépassent, qui vont bien au-delà de ce... Et donc, me confronter à ce qui me dépasse. Donc voilà, avec Mal d'Aurore... C'est le premier pas, en tout cas, de nouveaux films, d'une nouvelle approche, en tout cas, d'une nouvelle approche de sujet, oui.
Une quête de vérité, en quelque sorte, personnelle ou...
Oui, personnelle, identitaire. Je pense que c'est sain, quoi. On est en route pour faire un film sur à la fin du 19e siècle du Congo, l'État indépendant du Congo qui était exploité par Léopold II et les concessions caoutchoutières. Donc là, c'est deux décennies de barbarie complète. Ça n'a jamais été exploité au cinéma. Je pense qu'on va être les premiers. Voilà, c'est un sujet qui m'excite beaucoup, beaucoup, vraiment beaucoup. On le fait exactement un peu de la même manière, c'est-à-dire que c'est très, très documenté, mais ça reste un film de cinéma. L'approche est cinématographique, mais en tout cas, on va essayer d'être plus proche de ce qu'on a pu étudier, en tout cas.
Je crois que les nouvelles générations ont besoin de ça, justement. Ce sont des sujets qui reviennent de plus en plus souvent, et où on les traite aujourd'hui et on commence à les regarder, ou sinon le risque, c'est voir arriver les nouveaux courants d'opinion qui nous poussent à une éternelle culpabilité, alors que nos générations ne sont pas coupables. Non. Mais regarder l'histoire, c'est quand même très important, oui. Pour pouvoir montrer qu'on est capable d'encaisser ce qui s'est passé dans nos pays respectifs.
Exactement. Je veux dire, la culpabilisation, c'est terrible. Surtout que tout est ambivalent. Ce ne sont que des, encore aujourd'hui, ce ne sont que des rapports de force ambivalents, en fait. Donc il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que des zones grises. Et c'est ça qui est absolument fascinant. Nous, ce qu'on cherche à faire avec ces sujets, en tout cas qui concernent directement la Belgique et l'histoire de la Belgique, c'est de faire du cinéma, encore une fois, vraiment, avec des genres spécifiques. Ici, on est Mal d'Aurore, c'est le genre policier. Le film qu'on prépare sur le Congo, c'est le genre action. C'est vraiment un pur film d'action. Puis j'ai un autre projet autour de la collaboration avec les nazis, donc les Rexis qui sont partis sur le front de l'Est. Ça, c'est vraiment le film de guerre. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très genrées, cinématographiques, mais qui en même temps font sens, en tout cas, à ce que je cherche moi. J'essaie de comprendre un peu mieux, en tout cas de manière un peu plus précise, c'est quoi être ce pays, en fait. Je pense que c'est sain. Je pense que c'est ça. Et puis après, c'est quelque chose que je peux laisser et transmettre à mes enfants et peut-être un peu plus loin autour d'eux, quoi. Donc voilà, ça me... C'est-à-dire, c'est une bonne manière d'envisager les prochaines années, je trouve.
Une dernière question. Vous êtes membre du jury de la compétition ici à TIFF, à Cluj. Comment vous sentez? Qu'est-ce que vous cherchez, en fait, quand vous êtes dans un jury, quand vous regardez un film qui n'est pas le vôtre, bien évidemment?
D'abord, je suis très, très cinéphile. Je vois beaucoup de films de manière générale. Mais alors, ici, je suis content de revenir parce que ça fait 20 ans que j'étais plus revenu, parce que j'avais présenté mon premier film ici il y a 20 ans. Je suis dans le jury, effectivement. Le jury est vraiment très agréable. On s'amuse vraiment beaucoup. Et puis, ce qu'on cherche, ben, c'est des bons films.
Juger ses pairs, c'est compliqué, non?
Ah, vous savez, un bon film, c'est un bon film, hein. On le voit tout de suite. Je pense qu'aujourd'hui, c'est évident. Enfin, j'ai suffisamment d'expérience. On voit très vite quand c'est un bon film, quand il est... Quand il est abouti, quand il est incarné, investi, mis en scène, photographié avec une profondeur, une texture, presque une odeur, enfin on le voit tout de suite. Donc on est assez raccord en fait sur le constat. On est toujours curieux de voir les films des autres. Enfin, en tout cas, moi j'ai toujours très très curieux de voir le travail des autres. Ouais.
L'am ascultat pe regizorul belgian Fabrice Duvels. După studii de teatru la Conservatorul din Liege, Fabrice urmează cursurile Departamentului de Producție al Institutului Superior de Arte din Bruxelles. A fost apoi prezentator de televiziune și actor în Franța și Belgia. A regizat mai multe scurtmetraje, printre care Condoné amoureux c'est merveilleux, premiat la mai multe festivaluri din Franța și Belgia în 1999. Primul său lungmetraj, Calvert, din 2004, a avut premiera mondială la Cannes. Al șaselea său film, coproducția franco-belgiană Adoration din 2020, a avut premiera la Locarno în 2019 și a fost proiectat în secțiunea Limelight la Rotterdam anul următor. Cel mai nou lungmetraj al său, Mal d'Horror din 2024, a avut premiera la cea de-a 81-a ediție a Festivalului de la Veneția și se mai poate vedea la TIFF, astăzi de la ora 16, la Casa de Cultură a Studenților. Proiecția filmului va fi urmată de un Q&A. Mai multe detalii despre programul TIFF pentru acest weekend vă invit să găsiți pe site-ul tiff.ro. Tot la TIFF, săptămâna aceasta a avut loc și cea de-a treia rezidență creativă a celei de-a doua ediție a programului Full Moon Creative Lab, o inițiativă a Festivalului Internațional de Film Transilvania. 12 scenariști din Europa s-au reunit la Castelul Bethlenhaller din Transilvania, unde au avut ocazia să-și dezvolte abilitățile de scriere alături de experți internaționali din industria filmului. Programul Full Moon Creative Lab este destinat autorilor de scenarii pentru seriale de gen, thriller, horror și fantasy, iar inițiativa TIFF este cofinanțată de Uniunea Europeană. Împărțiți în 3 writers' rooms, participanții la Full Moon Creative Lab au fost îndrumați de 3 facilitatori profesioniști din industria filmului. Eilon Ratzovski, din Israel, producător cu o experiență de peste 25 de ani în producția de filme și seriale TV, Arnaud Louvet, scenarist și producător francez, implicat în proiecte de seriale pentru platforme de streaming, și scenarista și producătoarea creativă Micaela Savo, din Slovacia. În această ultimă rezidență, celor 3 li s-a alăturat și producătoarea și experta în pitching, Agat Berman. La fel ca anul trecut, această a doua ediție a Full Moon Creative Lab se va încheia cu o sesiune de pitching în cadrul festivalului chiar astăzi, în fața unor profesioniști influenți din industrie, favorizând oportunitățile ca proiectele să găsească sprijin pe piață. Apelul de înscrieri pentru această ediție a fost lansat în iunie anul trecut, în cadrul ediției de anul trecut a Festivalului Internațional de Film Transilvania, iar cei 12 scenariști au fost selectați de juriu din peste 80 de aplicanți. Cele 3 proiecte selectate sunt Normal Porn for Normal People de Hiram Harrington din Irlanda și Marciban de Susanna Bach din Ungaria și Under the Mountain de Madeleine Ferré-Fleury din Franța. În timpul rezidențelor creative, scenariștii menționați s-au alăturat altor 9 colegi din Germania, România, Estonia, Bulgaria și Croația. Cea de-a treia rezidență a avut loc, cum spuneam, la Castelul Bethlenhaller din Cetatea de Baltă, construit în perioada 1560-1624. Castelul a devenit un simbol de preț al Jidvei, printr-un proces amplu de restaurare început în 2003 și care a durat aproape 20 de ani. Castelul a fost readus la lumină și reașezat în patrimoniul cultural al comunității și al României. Full Moon Creative Lab reprezintă un laborator creativ care se desfășoară în Transilvania, oferind scenariștilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile înconjurați de experți internaționali în industrie. Proiectul își propune să îmbunătățească procesul de creație al scenariștilor, conectând cineași talentați din toate statele membre ale Uniunii Europene. Laboratorul este la a doua ediție și marchează următorul pas în dezvoltarea Full Moon Script Contest, un program lansat de TIFF în 2020. Și încheiem tot cu o invitație la film pentru săptămâna viitoare. Isidor, un film despre viața incredibilă a unui copil abandonat. Pe 25 iunie de la ora 20 va avea loc la Cinema Muzeul Țăranului, studioul Horia Bernea, o vizionare specială a unui scurt metraj tulburător care aduce în prim plan povestea unui copil abandonat într-unul dintre cele mai cumplite orfelinate ale regimului comunist. Filmul Isidor surprinde o zi din viața unui copil abandonat la căminul Spital pentru Copii Deficienți Nerecuperabili din Sighetul Mărmației, o instituție devastatoare a regimului comunist, care a adăpostit de-a lungul celor 30 de ani de existență 738 de copii, dintre care 279 au murit acolo. Puțin dintre supraviețuitori mai pot depune mărturie, mulți dintre cei care au supraviețuit fiind astăzi în instituții pentru adulți. Din acest motiv, filmul Isidor reprezintă un document extrem de valoros al istoriei abandonului în România. La proiecție vor fi prezenți membrii echipei de cineaști americani care au contribuit la realizarea acestui proiect, Sarah Padbury, scenarist și producător, și regizorul David Cabe, dar și Isidor Ruchel, cunoscut ca avocatul orfanilor. De la ștampila de nerecuperabil a statului român, Isidor este astăzi autor, speaker internațional și producătorul acestui film, un ambasador al sutelor de mii de copii care au trecut prin suferința instituționalizării în perioada comunistă și postcomunistă. În cartea sa autobiografică, intitulată Abandonat pe viață, Isidor Ruchel povestește despre dramele trăite în primii 11 ani din viața sa, petrecuți la căminul spital din Sighetul Marmației. După căderea regimului comunist, un cuplu de americani l-a adoptat, oferindu-i șansa unei vieți demne într-o țară a tuturor posibilităților. Cartea sa a ajuns la celebrul actor Morgan Freeman, care a decis să includă povestea lui Isidor într-un documentar distribuit internațional, intitulat Puterea dragostei, în care este explorat impactul covârșitor al abandonului asupra sufletului uman. Filmul Isidor a fost realizat între 2021 și 2024 și este un omagiu emoționant adus puterii apartenenței, bunătății curajoase și vindecării. Materialul a fost filmat chiar în spațiul în care au avut loc evenimentele din povestea reală, la Sighetul Marmației. În plus, cineaștii au folosit animația pentru a ilustra secvențele din interiorul căminului spital, a cărui clădire este astăzi abandonată. Animația a fost aleasă și pentru a diminua impactul psihologic al realității extrem de violente pe care copiii de la căminul spital Sighet au trăit-o. Filmul va mai fi prezentat în luna iunie în evenimente private din Cluj-Napoca, Timișoara și în spațiul simbolic al acestei povești la Sighet. Detalii despre film pot fi găsite pe isidorstory.com. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă, un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni dimineață!